rendre gloire, Seigneur, où tu es venu toucher nos cœurs. Merci pour ton œuvre ce matin dans les corps, Seigneur, de ceux qui sont malades, dans les cœurs de ceux qui avaient besoin, Seigneur, d'être consolés, d'être fortifiés, Seigneur. Et je prie maintenant, Seigneur, pour l'ouverture de ta parole, qu'elle soit cette lampe, Seigneur, qui continue de nous arracher aux ténèbres, de nous transporter dans le royaume de la lumière, cette lumière si admirable que nos yeux ne peuvent s'en détourner. Que ta grâce vienne sur chacun de nous ce matin et sur la bouche de Pierre. Amen.
On est en train de parcourir le livre des Actes. La semaine dernière, on a partagé sur Marc 7. Est-ce que vous suivez tous la lecture du livre des Actes? Est-ce que vous avez lu le chapitre du jour, le chapitre 8? C'est pas grave, on va le lire ensemble. Mais bon, voilà, on va continuer en fait ce que Farid a commencé à partager la semaine dernière. Et puis on va lire ce livre ensemble. On va le lire 40 versets. Très, très, très long. Il y a beaucoup de choses, c'est très riche. Donc on ne va pas avoir le temps.
Mais on va regarder un petit peu sous le prisme de l'Église en mission. L'Église en mission, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'elle fait? Alors je vous rappelle un peu le contexte. On est après la résurrection de Jésus-Christ, il est monté au ciel, et quelques temps après, ses disciples sont rassemblés, et ils reçoivent le Saint-Esprit que le Seigneur leur avait promis pour être ses témoins. Jésus n'est pas avec eux, mais la puissance de l'Esprit l'est, et il commence à proclamer l'Évangile de la bonne nouvelle avec courage, avec zèle. Et beaucoup sont touchés par leur message et se convertissent. C'est la première communauté chrétienne, il y a de plus en plus de monde, ils ont besoin de se structurer, donc ils vont nommer des diacres pour les aider dans le service quotidien auprès des veuves. Il y a de nombreux miracles, mais ce qui se passe ne plaît pas aux autorités religieuses de l'époque qui veulent les faire taire. Et le diacre Étienne est arrêté sur de fausses accusations, et Étienne va faire un discours qui va provoquer la fureur de ses auditeurs qui vont se précipiter sur lui pour le lapider. Et Saul est témoin de tout ça. Et notre texte du jour, le chapitre 8, commence à ce moment-là. Ok ? On va le lire ensemble. Saul a prouvé le meurtre d'Étienne. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église qui était à Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et firent sur lui de grandes lamentations. Or Saul ravageait l'Église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux donc qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha le Christ. Les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe en apprenant et voyant les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient et beaucoup de démoniaques en criant d'une voix forte et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Un homme du nom de Simon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, exerçait la magie, provoquait l'étonnement du peuple et de la Samarie, et se disait quelqu'un de grand. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu appelée la grande ». Ils s'attachaient à lui parce qu'il les avait assez longtemps étonnés par des procédés magiques. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les grands signes et miracles qui se produisaient. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit « Donnez-moi aussi ce pouvoir, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent aille à la perdition avec toi, puisque tu as pensé à acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es en proie à l'amertume du fiel et au lien de l'injustice. » Simon répondit, « Priez-vous même le Seigneur pour moi afin qu'il ne me survienne rien de ce que vous avez dit. » Après avoir rendu témoignage et annoncé la parole du Seigneur, ils retournèrent à Jérusalem en évangélisant plusieurs villes des Samaritains, plusieurs villages des Samaritains. Un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et le surintendant de tous ses trésors était venu à Jérusalem pour adorer. Et il s'en retournait assis sur son char en lisant le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et rejoins ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à l'abattoir, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, son droit a été supprimé. Et sa génération, qui la racontera? Car sa vie est supprimée de la terre. » L'eunuque prit la parole et dit à Philippe, « 2, je te prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe ouvrit la bouche et commençant par ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il ordonna d'arrêter le char, tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Quand il fut remonté hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, alors que joyeux il poursuivait son chemin. Quant à Philippe, il se trouva dans Azote, puis il évangélisa toutes les villes par lesquelles il passait jusqu'à son arrivée à Césarée.
Waouh !
Le découpage, un chapitre entier, c'est très très riche. Mais bon, comme je vous l'ai dit, on va essayer de regarder un petit peu sous le prisme de l'Église en mission. On va commencer par le début. Il y a en ce jour-là une grande persécution contre l'Église qui était à Jérusalem. Merci. L'Église était à Jérusalem, il y avait de la joie, il y avait des miracles. La communauté grandissait, ils mettaient tout en commun, il n'y avait aucun indigent, nous dit les Écritures. Ils étaient bien, tout allait bien, même s'il pouvait y avoir quelques accrochages avec les autorités religieuses de l'époque, tout allait bien. Et il se passe quelque chose de dramatique. Étienne est assassiné et une grande persécution contre l'Église démarre. Mais cet événement dramatique qui se produit, Dieu l'utilise pour accomplir son plan. Il met la persécution de l'Église au service de sa mission. Et alors il y a un truc qui m'a frappé, j'ai regardé le verset 8, le chapitre 8, verset 1, c'est « Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église qui était à Jérusalem, et tous excepté les apôtres se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. » Et si vous inversez juste deux lits, si vous vous trompez, si vous inversez les deux chiffres, vous tombez sur acte 1, verset 8, et là vous lisez « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'à l'extrémité de la terre. » Je trouve ça génial. Jérusalem, la Judée, la Samarie. Dieu accomplit son plan quoi qu'il advienne. Ni les circonstances, ni les gens, rien ne va empêcher le plan de Dieu de s'accomplir. Et ça, c'est capital de le saisir. Il accomplit son plan au travers de son Église. Elle est dispersée, mais elle va atteindre des contrées jusqu'alors non atteintes par l'évangile de la bonne nouvelle. Si tu peux afficher juste la carte qui est derrière, je dois avoir un petit laser, juste pour visualiser. Non, c'est pop. Voilà. Donc Jérusalem ici, l'Église est ici, les premiers chrétiens, ils sont dispersés et puis ils vont partir donc toute la Judée, toute la Samarie, et puis même encore plus haut, on va le lire juste après. Dieu utilise la persécution et la souffrance de son peuple pour répandre la bonne odeur de Christ et bénir le monde. Si on lit un peu plus loin, au acte 11, verset 19, « Ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. » Donc, si je reviens sur la carte, Chypre, c'est une petite île qui est un peu plus haut en gauche, et Antioche, c'est encore plus haut, donc ils sont allés très très loin. Ils annonçaient la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, venus à Antioche, parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, on ne subit pas cette persécution, telle qu'on la lit là. Et elle n'est pas à être cherchée. Mais nous devons avoir cette assurance que si elle survenait, ou plutôt j'aimerais dire quand elle surviendra, parce que Jésus ne nous a pas caché ces choses, si vraiment on entre dans sa mission, sans doute qu'une forme de persécution va venir. Dieu reste maître de l'histoire et utilise les circonstances de nos vies, de l'Église, pour atteindre son but. Toucher le cœur de celles et ceux qui ne le connaissent pas encore. Je suis impressionné par la foi de ces premiers chrétiens. Ils subissaient une grande persécution, il nous est dit. Il nous est dit que Saul ravageait l'Église. Ravager, c'est un mot qui est quand même fort. Il entrait dans les maisons, il arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ça veut dire qu'il y avait des familles qui étaient déchirées, déplacées. Il y avait des enfants, peut-être, qui n'avaient plus leurs parents. Des enfants qui étaient déplacés dans une région qu'ils ne connaissaient pas, avec des voisins qu'ils ne connaissaient pas. Ils se retrouvaient déplacés dans des lieux où ils ne connaissaient personne. Et pourtant, malgré tout ça, il nous est dit au verset 4, « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle de la parole. » Et ça, ça me touche. Ils vivent quelque chose d'extrêmement dur. Et malgré ça, ils vont aller de lieu en lieu pour annoncer la bonne nouvelle de la parole. Voilà une église en mission. Elle a un objectif. Obéir à l'appel du maître. Partager celui qui a changé leur vie à tout jamais. C'est plus important que tout. Même que leur propre vie. Donc j'aimerais nous reposer cette question ce matin. Sommes-nous une église en mission ? Quelquefois, je me demande pourquoi ce sont les gens qui souffrent, cette impression qui porte le plus de fruits, qui ont le plus de courage pour proclamer l'Évangile. On a eu un culte sur l'Église persécutée, on en a eu plusieurs, on entend, on voit ce qui se passe au travers de la vie de ces femmes et de ces hommes qui sont persécutés à cause de leur foi. Et nous ? Et moi ? Pourquoi y a-t-il une telle inertie qui nous maintient dans un état si, j'y vais fort, statique dans notre mission pour Christ ? Notamment dans l'annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous avons tout. Nous ne manquons de rien. Nous sommes libres. Nous sommes en sécurité. Tout est plus facile comparé à d'autres. Alors logiquement, techniquement, nous devrions avoir les moyens de faire tellement plus. Et pourtant, parfois, c'est les actes opposés qui se produisent. Nous sommes préoccupés parce que nous n'avons pas encore. Nous sommes épuisés. Nous sommes faibles. Nous sommes inquiets pour notre sécurité, tournés vers nous-mêmes. J'y vais un peu fort. Je ne vais pas dire que je caricature, mais parfois, je me retrouve un petit peu là-dedans. Je ne sais pas vous. Et ça me fait penser à la semence qui tombe parmi les épines. Vous vous rappelez cette parabole de la bonne semence que Jésus a donnée ? La parabole du semeur. Bon, la semence va tomber dans différents lieux. Et Jésus explique que la semence, c'est sa parole. Et tous ne l'accueillent pas de la même manière. Il y a ceux qui la reçoivent dans les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du monde, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Est-ce que Christ est annoncé autour de nous, autour de vous ? Car c'est ça le message de sa parole. Tout pointe vers Christ. Il y en a qui ne tiennent pas pendant la persécution à cause de la parole, car ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, nous dit aussi cette parabole. Mais il y en a qui la parole est étouffée, en qui la parole est étouffée, car ils sont préoccupés par le monde dans lequel ils sont, plutôt qu'à être préoccupés par le royaume de Dieu. Donc j'aimerais commencer par nous dire, soyons vigilants de comment les convoitises du monde nous affectent dans notre marche avec Jésus et dans notre efficacité à proclamer l'Évangile. Et quand nous serons persécutés, gardons cette assurance que Dieu reste en contrôle et exécute son plan. J'aimerais qu'on, qu'on survole maintenant le chapitre et puis qu'on regarde comment l'Église était en mission concrètement. J'aimerais commencer, j'ai plusieurs points, alors je vais oublier des points sans doute, et puis on ne va pas avoir le temps de tous les voir parce qu'il y a énormément de choses, mais j'aimerais en citer quelques-uns. Tout d'abord, l'Église en mission, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va de lieu en lieu. Si on lit au verset 4, « Ceux qui donc qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle de la parole. » Verset 5, Philippe, descendu dans une ville à Samarie, y prêcha le Christ. Verset 25, après avoir rendu témoignage et annoncé la parole du Seigneur, ils retournèrent à Jérusalem en évangélisant plusieurs villages des Samaritains. Verset 26, un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend à Jérusalem, à Gaza, celui qui est désert, et on connaît la suite. Verset 40, quant à Philippe, il se trouva dans Azote, puis il évangélisa toutes les villes par lesquelles il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. C'est dans l'ADN de l'Église d'aller là où le Christ n'a pas été prêché. Et ce n'est pas forcément en des milliers de kilomètres. C'est la mission que Jésus nous a donnée. Allez. Il y a une notion de mouvement. Ce n'est pas statique. Parfois, le Seigneur intervient pour donner une direction précise. On le voit avec l'exemple de Philippe, où il y a un ange qui lui apparaît et qui lui dit d'aller à un endroit précis. Et parfois pas. Et Philippe, il n'attend pas cela pour descendre dans une ville de Samarie et y prêcher le Christ. Ceux qui furent dispersés n'ont pas attendu une direction, une parole divine pour aller. C'est juste une réponse à l'appel de Jésus d'aller. Juste une réponse à l'appel de Jésus d'aller. Je nous pose cette question. Quelle est notre Judée ? Quelle est notre Samarie ? Vers qui le Seigneur nous demande d'aller ? Donc l'Église en mission, elle n'est pas statique. Elle bouge, elle se déplace, elle va. Là où le Seigneur l'envoie. Et s'il n'y a pas de direction précise, elle va quand même là où sont les perdus. Une église en mission, elle n'est pas statique. Elle annonce la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Elle prêche. Qui ? Christ. La bonne nouvelle de l'Évangile, elle prêche Christ. Verset 4. En annonçant la bonne nouvelle de la parole. On va relire les mêmes versets en fait. Verset 5, il prêcha Christ. Verset 12. Mais quand ils crurent à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Verset 25, après avoir rendu témoignage et annoncé la parole du Seigneur, ils retournèrent à Jérusalem en évangélisant plusieurs villages samaritains, etc., etc. Christ est prêché. Il est l'essence même de la bonne nouvelle de la parole. Car il est le seul chemin vers Dieu. Il est le seul chemin vers Dieu. C'est lui qui a donné sa vie. C'est lui qui délivre du péché, de la condamnation éternelle. Il est l'amour de Dieu incarné, manifesté pour nous. Il est celui qui est venu, non pour être servi, mais pour servir et offrir sa vie en rançon pour beaucoup. C'est lui, c'est Christ notre avocat. C'est lui notre salut, c'est lui notre rocher. Et c'est pour ça que prêcher, il faut prêcher Christ. Si notre prédication passe à côté de ça, ne dit pas ces choses-là, alors elle demeurera stérile. Romains 10, versets 14 et 15 nous dit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » C'est bien de dire que nous sommes chrétiens. C'est super d'encourager celles et ceux qui en ont besoin et d'en prendre soin. C'est même très important. Et cela fait partie du mandat apostolique de se souvenir des pauvres. C'est excellent de prier pour les malades. Toutes ces choses sont vraiment excellentes et nous font persévérer là-dedans. Mais est-ce que Christ et prêcher. Est-ce que quand je propose la prière à mon voisin parce qu'il n'est pas bien, parce qu'il a mal au dos, je prie pour lui, je dis le Seigneur vraiment, je crois que le Seigneur peut te guérir, et puis il revient le lendemain et puis il nous dit j'ai plus mal au dos, et puis on se réjouit. Est-ce qu'on saisit l'occasion, l'opportunité pour parler de Jésus, pour parler de Christ ? Parce que c'est ça l'essentiel. Philippe est appelé par le Seigneur à aller vers un eunuque éthiopien. Et que lit l'eunuque au moment où Philippe se rapproche du char ? Le texte d'Ésaïe 53, ce que tu as prié tout à l'heure. Et l'Éthiopien ne sait pas de qui il est question dans ce texte. Un boulevard pour Philippe, pour lui parler de Jésus, le Fils de Dieu. Et la prédication de Philippe va permettre à cet eunuque de comprendre qui est Jésus. Et ça va changer sa vie, on le lit, ça a changé sa vie. Dans la ville de Samarie, les habitants, du plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à un magicien parce qu'il les étonnait par des prodiges magiques. Il disait qu'il était la puissance de Dieu appelée la Grande. Mais quand Philippe vient, il y a quelque chose de plus. Même Simon le magicien est interpellé et il nous est dit au verset 8, il y eut une grande joie dans cette ville, une grande joie. Pourquoi ? On le lit au verset 7. Il nous est dit que les esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques. Il est dit que beaucoup de paralytiques et de boiteux étaient guéris. Mais la principale raison de la joie était à cause de ce que nous lisons au verset 5. Philippe, descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha le Christ. Seul Christ a le pouvoir de délivrer de Satan et de tout son mal, tout le mal qu'il fait. Seul Christ a le pouvoir de guérir nos corps. Seul Christ a le pouvoir de pardonner nos péchés et de nous rendre justes devant Dieu. La parole qui apporte la persécution apporte aussi la joie. Elle est la joie. Et la joie qu'elle apporte est tellement plus grande et plus longue que les ennuis qu'elle apporte, que le compromis en vaut la peine. La joie qu'elle apporte est tellement plus grande que la persécution qu'on pourrait avoir, que ça en vaut la peine. Donc l'Église en mission, elle va de lieu en lieu. Elle prêche la bonne nouvelle de l'Évangile, elle prêche Christ. Elle chasse les démons et guérit les malades. On le lit dans ce texte. Des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en criant d'une voix forte et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Voilà de quoi était accompagnée la prédication de Philippe. Marc 16, au verset 17, nous dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur sera fait point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. » Nous lisons, comme je viens de le dire, que certains de ces signes accompagnaient la prédication de Philippe. Il nous est dit que les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe en apprenant et en voyant les miracles qu'il faisait, des signes de puissance qui accompagnent la prédication de l'Évangile. Mais ces signes de puissance ne pointent pas vers eux-mêmes. Ils pointent vers celui qui en est l'auteur et sans qui rien ne se produirait. Je me répète, mais je le fais exprès, Christ. Et Simon, il n'a pas vu cela. Il a vu des signes plus grands que ce qu'il était capable de faire. Et il a suivi Philippe partout en voulant l'imiter. Regardez. Si je dis par exemple à un petit enfant, un bébé, de regarder l'oiseau, de regarder quelque chose, souvent l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas regarder où mon doigt pointe, il va regarder le doigt et peut-être il va vous imiter. Et c'est ce qui se passe avec Simon. Il voit les signes, mais il ne voit pas Christ. Il ne voit pas son propre péché et le besoin de se repentir et de donner sa vie à Christ. Et c'est pour cette raison que Pierre va le reprendre sèchement. Alors que Simon veut acheter le pouvoir d'imposer les mains, il pense pouvoir utiliser le Saint-Esprit comme il le souhaite. Pierre lui dit que ton argent aille à la perdition avec toi puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. C'est dur, hein ? Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta pensée mauvaise. Repens-toi donc de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. C'est ce qui manque dans la vie de Simon, une reconnaissance sincère du péché qui le sépare de Dieu et la décision de se tourner vers Jésus avec confiance, humilité pour obtenir le pardon. L'étonnement et l'excitation face aux signes miraculeux ne suffisent pas à susciter une foi qui sauve. L'émerveillement qu'on peut avoir face aux miracles ne suffisent pas à susciter une foi qui sauve. Ces signes, ces prodiges, ces guérisons, ces délivrances pointe vers Jésus. Et la vraie foi se trouve en lui seul. Nous pouvons avoir toutes les expériences spirituelles, surnaturelles possibles, tant que nous ne nous tournerons pas vers le Seigneur lui-même, il n'y aura pas de vraie foi. Donc quand nous prions pour nos collègues, nos amis, notre famille, pour leur maladie, leur douleur, expliquons-leur, annonçons-leur la bonne nouvelle de Christ. Ce n'est pas nous, c'est lui qui guérit, c'est lui qui sauve, c'est lui qui délivre. Donc l'Église en mission, elle n'est pas statique, elle prêche Christ, il y a des signes qui l'accompagnent, mais ces signes pointent vers Christ. Et l'Église en mission, elle travaille en collaboration avec les apôtres, avec les autres ministères. On le voit dans ce texte. Philippe n'était pas un solitaire avec un ministère. Il était connu et il était aimé dans une église locale. Il n'était pas une personne qui avait du mal à s'intégrer et qui avait décidé de quitter l'église pour aller faire son truc d'évangélisation. Si on remonte un peu plus loin dans les Actes, au chapitre 6, il nous est dit, quand il a fallu choisir des diacres, « Choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage, rempli de l'esprit et de sagesse. » Il a été choisi par l'Église. Il a une bonne réputation. Il est reconnu pour être rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Il était doué, mais il n'a pas fait valoir son don. Il a servi. Il a pris sa place pour que les autres puissent poursuivre leur ministère. Il n'a pas exigé d'être reconnu. Et ici, on le voit, il descend en Samarie, il prêche. Beaucoup accueillent Christ dans leur cœur. Et il y a les apôtres qui débarquent. Et il ne leur dit pas de repartir, qu'il n'a pas besoin d'eux. Il les reçoit. Ils sont venus pour prier pour les Samaritains qui ont accueilli la parole de Dieu, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Et par la même occasion, écarter, discipliner Simon, qui avait trop de visibilité et n'avait pas réellement compris le message de l'Évangile. Philippe, j'aimerais dire, il joue en équipe, il joue collectif. Éphésiens 4 nous dit que les dons sont donnés pour équiper les saints, afin qu'ils deviennent à l'état d'homme fait, à la mesure et la stature parfaite de Christ. Rien de moins. Christ qui est Dieu et qui pourtant a lavé les pieds de ses disciples. Nous devons aller dans la mission, l'Église dans la mission, elle y va dans la mission avec humilité, unis les uns avec les autres, en travaillant en équipe et en reconnaissant les dons que Dieu a donnés les uns aux autres. Donc une église en mission, elle n'est pas statique, elle va, elle prêche Christ. Il y a des signes et des prodiges qui l'accompagnent, qui pointent vers Christ. Elle travaille en collaboration avec les ministères, les uns avec les autres, ensemble. Une église qui est en mission, elle est à l'écoute de Dieu et elle est obéissante à la manière dont Dieu veut révéler l'évangile au monde. Ici, Philippe va avoir plusieurs rencontres, dans la fin de ce texte, on voit que Philippe il va avoir plusieurs rencontres surnaturelles. Des rencontres inattendues. Un ange, un eunuque éthiopien et l'Esprit du Seigneur. Et si on creuse ce passage, nous voyons que Philippe est appelé à aller dans une route déserte, à l'heure où il fait le plus chaud, là où on a le moins de chances de croiser quelqu'un. Mais il y va. Et là, contre toute attente, il y a une délégation qui arrive avec un eunuque éthiopien assis sur un char. Il nous est dit un haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie. Donc là, le Seigneur lui dit d'aller vers une personne vers qui Philippe ne serait pas allé naturellement. Une personne qui est riche, une personne non juive, et qui plus est, une personne qui était eunuque, nous est dit. Et les hommes, il faut savoir, au service d'une reine, étaient souvent castrés, leurs testicules étaient écrasés. Et la loi de l'Ancien Testament ne permettait pas à ces personnes de se tenir dans l'Assemblée de l'Éternel. Deutéronome 23, verset 2 dit « Celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. » Et l'Esprit du Seigneur dit à Philippe de s'approcher du char, suffisamment près pour qu'il entende sa lecture. On l'a dit tout à l'heure, une partie d'Ésaïe 53. Il a été mené comme une brebis à l'abattoir et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, son droit a été supprimé, et sa génération, qui la racontera, car sa vie est supprimée de la terre. il apparaît clairement que Dieu est à l'œuvre ici et conduit Philippe vers cet homme au moment précis où il passe sur cette route, au moment précis où il a cette lecture. Et au travers de tout ça, Dieu annonce encore une ouverture du royaume à d'autres qu'aux Juifs. Dieu a un plan, je l'ai dit au tout début, et il l'accomplit. Et nous devons aussi être à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire, être obéissant quand il nous demande de faire quelque chose ou d'aller quelque part. Il veut que la bonne nouvelle de l'Évangile, Christ, soit apportée vers toutes celles et ceux vers qui il nous envoie. Tous ceux vers qui il nous envoie. Et peut-être parfois vers des personnes vers qui on n'aurait pas envie d'aller. Comme Philippe, dans ce lieu désert, vers cet Éthiopien. Ou bien, on le lira les semaines prochaines, Ananias, dans le chapitre suivant, que Dieu va envoyer vers Saul, le persécuteur de l'Église. Ou bien Pierre, chez Corneille. On a une église ici qui est en mission, qui va, qui n'est pas statique, qui annonce, qui proclame l'Évangile, mais qui est aussi à l'écoute de ce que Dieu dit et qui lui obéit. Il y a d'autres points, mais on ne va pas les prendre. Mais l'église qui est en mission, c'est aussi une église qui baptise, qui prie pour que les saints reçoivent le Saint-Esprit, qui fait des disciples. Notre Église est en mission. Il y a cette image qui a été donnée, et c'est pour ça que j'avais mis l'image de cette ville sur cette montagne. Elle nous a été rappelée ces dernières semaines à plusieurs reprises. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Vous savez ce passage qui dit « Une ville sur une montagne ne peut être cachée, et on ne met pas la lumière sous le boisseau, mais on la met sur la table pour qu'elle éclaire toute la maison. » Vous êtes la lumière du monde. Nous avons le mandat d'annoncer l'évangile de la bonne nouvelle en tout lieu, toutes circonstances, joyeux de ce qu'il apporte la liberté, la délivrance à toutes celles et ceux qui sont captifs de leurs péchés et du mal. On va avoir, Farid en a parlé tout à l'heure, une journée de jeûne et prière. Pour ça, nous voulons écouter ce que Dieu veut nous dire au sujet de la mission dans laquelle il nous envoie, comment il veut nous conduire et aussi prier pour ce que nous avons déjà prévu de faire. Et je pense à Alpha. Alpha, c'est quelque chose de vraiment important. Henri nous en a parlé tout à l'heure et on va prier pour Alpha. On va prier pour la famille B, qui est en mission aussi, et que le Seigneur appelle. Donc quelque chose de complètement fou, de tout quitter et de partir pour aller aider cette église à Genève. On va prier pour notre communauté, parce que nous voulons porter plus de fruits. Nous voulons avoir un impact là où Dieu nous envoie. On veut voir des vies transformées, des vies changées. Donc vraiment, je vous invite à mettre cette journée à part, cette soirée à part dans vos agendas. C'est vraiment important. Et nous croyons aussi qu'il est important que nous grandissions dans la dimension du témoignage. Que cela va nous aider à persévérer et à grandir dans la mission, dans notre mission pour Jésus. Vraiment, on a à cœur, les anciens, qu'on puisse vraiment faire naître dans notre communauté une culture de témoignage. Il nous est dit dans le texte qu'on a lu ce matin, les foules s'attachaient à ce que disait Philippe en apprenant et en voyant les miracles qu'il faisait. En apprenant, il y avait des gens qui rendaient compte de ce qu'ils entendaient, de ce qu'ils voyaient. En apprenant, ils témoignaient. Quand on témoigne, on glorifie Dieu. Quand on témoigne, on s'encourage les uns les autres. Ce matin, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis allé voir mon collègue, je lui ai dit ça, 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 et puis on entend et on dit « mais purée, mais moi je pourrais faire pareil ». On s'encourage les uns les autres. On prie les uns pour les autres, on fait croître notre niveau de foi. Alors on va encourager et continuer dans les témoignages de bénédiction que Dieu a pour nous, mais on aimerait vraiment grandir aussi dans cette dimension du témoignage de l'évangile de la bonne nouvelle qui est annoncée. Les conversions, les guérisons, les miracles, les personnes que nous avons pris soin. Et pour nous y aider, on a pensé à quelque chose d'un peu fou. Peut-être un peu risqué, mais qui, nous le croyons, peut nous aider à nous mobiliser et à faire de notre mission une priorité dans nos vies et dans notre Église. Juste comme un reminder, juste comme un rappel. On va mettre en place... Suspense. Non, non. Allez. On va mettre en place des compteurs. Vous les voyez en bas, de cette slide d'annonce. qui vont comptabiliser semaine après semaine les personnes à qui nous avons parlé de Christ, peu importe leur réponse, du moment qu'on a parlé de Jésus. Des délivrances et des guérisons que nous attestons, les conversions, et les personnes les plus pauvres dont nous avons pris soin, les personnes vers qui on est allé. Et pour ça, nous voulons laisser plus de place dans nos cultes, dans nos groupes de vie, pour le témoignage. Mais on aimerait aussi vous donner la possibilité d'écrire quand vous vivez quelque chose. Nous avons créé une boîte mail qui va s'appeler acte@eglise-acm.org, à laquelle vous pouvez écrire pour témoigner de ce que vous avez vécu. On aimerait garder des traces de ce que Jésus fait au travers de notre communauté, pour qu'il en soit glorifié, pour qu'on soit encouragé et pour qu'on élève ensemble notre niveau de foi. Le livre des Actes des Apôtres rend compte des actes qui ont été faits par les premiers chrétiens. Quels sont les actes de l'ACM ? Alors, il n'est pas question de mettre un indicateur de performance. Vraiment pas. C'est vraiment pas l'objectif, c'est vraiment pas l'idée. Mais c'est plutôt une plateforme pour rendre gloire à Dieu et nous réjouir ensemble de ce qui est vécu, de s'encourager ensemble. Et puis j'aimerais dire, si certains chiffres ne décollent pas après plusieurs semaines, eh ben de nous mettre face à nos responsabilités, ensemble, en communauté. Si on voit que, je dis n'importe quoi, mais des conversions au bout de 4 mois, on reste toujours à zéro, ben on va prier. On va se mettre devant le Seigneur, ensemble. On va chercher sa face et on va lui demander d'agir au travers de nous, parce que c'est ce à quoi nous sommes appelés. Les buts de l'Église, c'est servir Dieu. On lui rend un culte. Et on est très bon pour ça, et il faut persévérer. Les buts de l'Église, c'est de servir les croyants. On se sert les uns les autres, c'est la formation. On s'édifie les uns les autres. Et c'est servir le monde, c'est l'évangélisation et la miséricorde. Et il doit y avoir un équilibre entre ces trois choses. Il n'y a pas une chose qui est plus importante qu'une autre. Et on doit, je pense, grandir et persévérer dans notre témoignage, dans l'annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile de Christ. Alors il y a des choses vraiment excellentes qui se vivent déjà aujourd'hui. Vraiment excellentes. Et j'en suis heureux. Christ est annoncé. Mais nous avons faim et soif de plus. Et ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous. Donc c'est vraiment pour s'encourager. Et moi, je me réjouis déjà à l'idée des prochains dimanches, avec foi, hein, où on va afficher cette slide et puis on va voir, voilà, il y a 10 personnes à qui on a témoigné de Christ cette semaine. Il y a eu 2 guérisons. Il y a eu des conversions. On a pris soin. Et puis semaine après semaine, ces chiffres vont grandir. Et on va pouvoir rendre compte, témoigner dans nos temps de culte, dans nos groupes de vie. On va écrire et peut-être qu'un jour on fera un recueil de ce que Dieu fait. Est-ce que vous avez envie ? Je me la joue un peu provoque ce matin. Mais je pense vraiment qu'il y a un appel sur notre communauté. C'est l'appel de Jésus. On a une mission, tant qu'on est ici-bas sur cette terre, d'aller, d'annoncer l'évangile de la bonne nouvelle. Amen. Amen. Soyez fortifiés, soyez encouragés, soyez un peu défiés aussi.